cliquez pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantsanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté avec RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Dimanche 15 septembre, vivez l'adrénaline des courses hippiques lors des Qatar Arc Trials à l'hippodrome de Paris-Longchamp avec RMC. L'élite des purs sang et des jockeys s'affrontent sur une dernière course préparatoire avant le grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Info et résa, francegallo-live.com. Les Qatar Arc Trials, dimanche 15 septembre avec RMC.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et on va poursuivre Estelle Midi avec les difficultés du jour. Et ce sont celles des applis de rencontre Bumble et Tinder. La première a vu son cours de bourse s'effondrer de 30% après des prévisions de croissance décevantes, tandis que la deuxième, Tinder, a perdu 20 millions d'utilisateurs en 3 ans. Rémi, comment peut-on expliquer cette désaffection?
Alors, les causes, elles sont multiples, mais l'une d'entre elles pourrait tenir dans le vaste malentendu entre ce que chacun recherche sur un site de rencontre. Pour cause, d'après une étude IFOP,
l'amour.
37% des personnes inscrites sur une application du genre reconnaissent n'y rechercher qu'un flirt virtuel, à tel point que les applications se voient désormais qualifiées d'arnaque par 51% des utilisateurs. D'après un sondage réalisé par l'Institut Cluster 17 pour le magazine Le Point, 44% des utilisateurs français se disent aujourd'hui insatisfaits des applications amoureuses qu'ils fréquentent, que ce soit Tinder, Badou ou encore Happn. Pire, seuls 20% des célibataires envisagent d'y recourir pour rencontrer leur partenaire. Après une apogée.
Mais pour autre chose, ils peuvent y recourir, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Après une apogée au moment de l'épidémie de Covid-19, tu l'as dit, la baisse est en cours. Par exemple, une baisse de 5% des téléchargements de Tinder, ce qui semble donc confirmer ce désamour.
Alors, faut-il en finir avec les applis de rencontre? Alors, je vais commencer avec vous, Fred. Je sais que vous ne vous y êtes jamais mis, en fait.
Ben, j'ai essayé il y a quelques années, mais ça n'a jamais marché. Je m'ennuie.
Excusez-moi.
Non, ça n'a jamais marché.
Non,
ça va, j'ai eu 2-3 aventures dans la vie quand même.
Ah, bah très bien, non, mais Fred, écoutez, il n'y a pas de problème.
Ne quittez pas pour moi, hein. J'espère qu'il y en aura encore quelques-unes, hein, je veux dire, mais le concept.
Mais vous qui aimez écrire. Après, c'est pas Zola, vous êtes d'accord, mais vous pouvez quand même vous chauffer un peu en écrivant.
Dès que je vois une faute d'orthographe,
ça sent l'expérience, en fait.
C'est comme la chanson de.
De quoi ?
La chanson de Brassens. Voilà, moi je
Il y en a plein.
Non, c'est quand je pense à Fernande. Voilà.
Ah oui, parce que j'étais sur la non-demande en mariage.
Oui, non, quand je pense à Fernande, c'est-à-dire que moi, je vois une faute d'orthographe déjà, j'ai plus envie.
Oui, enfin, excusez-moi, non, mais attendez, vous pouvez mettre dans vos critères femmes érudites ne faisant pas de faute d'orthographe.
Oui, mais les femmes érudites ne faisant pas de faute d'orthographe, elles sont rarement sur ce genre de.
Mais pourquoi ? Excusez-moi, vous avez des femmes érudites qui ne font pas de faute d'orthographe, qui peuvent avoir envie d'avoir un rapport sexuel ou alors de trouver l'amour. Vous voyez, ça existe, Fred.
Non, mais c'est
femmes. Elles ne sont pas forcément que dans des bibliothèques, vous voyez.
Fréquente de nouveau les bibliothèques, voilà.
Vous allez trouver.
Sérieusement, en fait, c'est la perte de temps à dire des banalités, en fait. Parce que j'ai parlé avec des gens. En fait, j'ai même fait des reportages là-dessus au tout début des speed dating. Vous savez, des rencontres comme ça. J'avais fait un reportage, donc je m'étais fait passer avec la complicité de l'organisme pour quelqu'un qui cherchait. Bon, si je l'avais trouvé en même temps.
Vous avez mis votre propre photo ou.
Je n'étais pas vraiment un rôle de composition.
Ou une autre photo, enfin, je veux dire.
Oui, j'étais moins célèbre à l'époque, donc je pouvais mettre ma vraie photo.
Alors, c'est sûr que si tu commences comme ça ta conversation, c'est.
J'étais tourné la. Ce que tu voulais faire.
Pour les gens connus, il y a Raya. Sinon.
Ah, bah tu me donneras, oui.
Je te donnerai.
Alors donc, bref, le. C'est l'ennui de passer des heures, parce que moi, tous les gens que j'ai rencontrés, qui ont réussi à rencontrer des gens sur les sites de rencontres comme ça, passaient 5 à 6 heures par jour et avaient 50 conversations en même temps. Et moi, je suis incapable de ça. Ah ben non, il faut faire du chiffre. Et moi, je n'ambige pas.
Il faut pas faire du chiffre, mais tu sélectionnes à la base.
Il faut commencer à te répondre. Ah bon, tu fais quoi et toi? Ah ouais, ça va, tu viens.
Dans la vie, quand tu dragues une nana, tu ne demandes pas ce qu'elle fait.
Non, mais tu ne parles pas à 50 nanas en même temps.
Ah non.
Et là, le truc, c'est qu'il faut être.
Bah, dans une soirée, c'était un peu prolifique.
Bah oui,
ça peut. Bah, parle pour toi, mais.
Et une fois qu'on t'a dit non, bah, tu passes à autre chose. Tu vois, il y a une logique.
Ben non, mais moi, j'ai essayé, ça n'a jamais marché.
Bon, bah, écoutez, en tout cas, ça a marché.
Ça m'ennuie.
Ça a marché pour beaucoup de gens. Amélie Rosic, est-ce qu'à un moment, il faut arrêter avec les applis et se remettre dans la vraie vie, finalement?
Alors, déjà, la preuve par l'exemple, c'est vraiment juste de l'expérience. Autour de moi, je connais 4 couples qui se sont rencontrés sur des applis, et d'ailleurs d'âges totalement différents, ça va de 35 ans à 74.
D'accord.
Et pour lesquels ça a fonctionné, qui ont eu
chasseur français à une appli.
Non, mais celle de 35 n'est pas avec celui de... Oui. Enfin bon, bref. Anyway, elle fait ce qu'elle veut. Mais en tout cas, je constate que ça fonctionne. Après, je trouve qu'il y a 2 angles, avantage, inconvénient. Je trouve que l'avantage, c'est que ça permet de sortir de son milieu. Enfin, on va pas se mentir, mais au bout d'un certain temps, quand on travaille beaucoup, si on est au travail, bah, tu vois toujours les mêmes personnes dans un même CSP qui font à peu près le même métier. Donc il y a une espèce de quasiment consanguinité là-dedans. Donc ça te permet de rencontrer peut-être, non mais rencontrer des gens qui font des choses différentes. Ouais, voilà, donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Après, à titre personnel, je trouve ça gênant. Donc c'est peut-être quelque chose de générationnel.
Qu'est-ce et en gênant,
même temps, non. Les applis? Non, je trouve ça toujours un peu gênant. Je trouve ça plus gênant par écrit, sur une appli, d'engager la conversation que in real life.
Toi, IRL, comme disent les jeunes. Ou pas?
Donc oui, depuis très récemment, mais ça me.
Mais est-ce que ça marche?
Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que tu as rencontré quelqu'un avec une appli? Est-ce que tu as été boire un café?
Non.
Ah
non.
Mais si tu
mais parce que
j'ai
non.
Mais non, mais excusez-moi, on va dire les choses. Hein. Entre les garçons et les filles, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'une fille sur Tinder rencontre quelqu'un dans les 10 minutes si elle veut.
Oui, je crois que c'est
vrai. Oui,
mais elle n'a pas voulu.
Pour le coup, c'est parce que j'ai refusé, mais parce que je n'avais jamais été inscrite sur aucune appli dans ma vie, et du coup, je trouvais ça intéressant de voir à quoi ça ressemble. Et je vois pas le problème de le faire, et ça peut fonctionner. Et après, oui, c'est un peu artificiel, peut-être. Je sais pas, il faut se voir vite. Je sais pas. J'ai pas les. Faut avoir les codes. Bon. Et typiquement, j'ai pas les codes.
En tout cas, pour l'instant, c'est pas forcément votre truc. Jérôme Lavrieux, vous me semblez un petit peu à l'ancienne, moi, sur ce genre de choses.
Ah, oui.
Je vous vois pas du tout fréquenter une appli, par exemple.
Jamais. Non. Moi, le réseau social le plus développé que j'ai vu, c'est Instagram. Donc,
Ah oui.
C'est pas une appli de rencontre.
Non, c'est pas l'idée. Bon, enfin, ça peut arriver quand même. Hein.
La première fois que j'ai vu. Celle qui est devenue ma chérie après, et je l'ai vue sur Instagram en vrai.
Oh, c'est beau. Regardez, il a les yeux qui brillent, ouais. Trop mignon.
Et elle m'avait vu à la télé dans une émission, dans une émission où j'étais pas à mon avantage à cette époque-là. Et voilà. Et puis ça s'est fait comme ça,
Donc ça s'est fait quand même par les réseaux sociaux.
Par les écrans. Après, on s'est. C'était pas l'objectif de se rencontrer grâce à Instagram. J'ai un de mes meilleurs amis qui ils se sont rencontrés sur une appli de rencontre. Ouais. Et j'ai même assisté à leur mariage.
D'accord. Ah oui.
Ça fait des années maintenant. Et lors de la cérémonie de mariage, après à la réception, ils ont chacun fait un petit discours et ils l'ont expliqué. Ils n'ont pas fait semblant, on s'est rencontrés dans un moment romantique. Ouais. Ils l'ont expliqué tout à fait naturellement. Maintenant, ils ont 2 merveilleux enfants.
Donc, ça peut marcher.
Et ça a bien marché. Mais je pense qu'il y a les applis qui sont... tu as envie d'avoir une aventure sexuelle du moment, tu te rencontres, etc. Et puis, il y a les applis qui sont faits pour se rencontrer et faire. Mais bon, moi, je suis un irréductible romantique, donc ce n'est pas mon truc.
Oui, mais pour le coup, ça a marché. Donc,
ouais.
C'est très bien. Nous sommes avec Marie. Marie qui nous appelle de Monaïne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis sûre que je prononce très mal. Bonjour, Marie.
Bonjour, Estelle. Oh, je suis contente de vous avoir.
Ah ben, moi aussi, Marie. Moi aussi. Comment se prononce le nom de votre ville?
Monaïne.
Mona, c'est ça. Je l'ai dit un peu à l'allemande, Mona. Marie, est-ce que vous fréquentez les sites de rencontres?
Alors, maintenant plus, mais étant plus jeune, j'ai beaucoup utilisé, donc des Tinder, des Adopte un mec, par exemple.
Ah oui, Adopte un mec, c'est vrai.
Et oui, parce que avec mon travail, j'ai beaucoup déménagé, donc je connaissais personne. Donc pas facile de se faire des relations, connaître des gens, simplement. Donc ne serait-ce que d'aller boire un verre, on sait en jamais.
Ouais, voilà, bien sûr.
Donc ça fait toujours plaisir. Et puis bon, par contre, oui, il faut faire du tri.
Clairement. Comment fait un tri, Marie? Le tri, il est sur les photos ou après les conversations?
Alors bon, les photos, Voilà, dans un premier temps. Mais après, ouais, c'est sur la discussion. Et puis, plus les années passent, plus on devient quand même avec des critères un petit peu plus développés. Des choses qu'on veut.
Les fautes d'orthographe, comme Fred Hermel.
Oui. Moi, c'est aussi, par exemple, beaucoup les animaux. Bah voilà, si tu ne portes pas les animaux à la maison, bah, ça va être compliqué de vivre chez moi, quoi.
Enfin, d'accord.
Voilà. Bien sûr. Par exemple. Mais voilà, j'ai eu des relations, dont une qui a duré 5 ans, par exemple. Ça n'a pas non plus été une réussite, mais bon.
Bah, 5 ans, c'est pas mal quand même.
Bah ouais.
Voilà, mais.
Surtout que vous avez l'air très jeune, Marie.
Oui, je vais sur 36. Et bah, ah, actuellement, ça fait 3 ans et demi que je suis avec la personne que j'ai rencontrée sur un site internet. Et je suis enceinte.
Ah, et mais génial, Marie. Félicitations. Et alors, attendez, qu'est-ce qui vous a fait craquer chez cet homme que vous avez rencontré sur une appli?
C'est les discussions.
C'est ça.
Les discussions, et en fait les hommes ils sont contents surtout de parler avec des vraies personnes, des vraies femmes. Donc j'avoue que quand ils tombent sur des vrais profils, bah ils sont contents quand même, parce que malheureusement il y a beaucoup de faux profils de femmes.
Ouais, c'est vrai. Mais vous avez raison, Marie, il faut se méfier évidemment. Ouais, et il faut se méfier. Et pareil, quelqu'un de trop beau. Les tablettes de chocolat, les machins, il faut aussi se méfier.
Oui, voilà. Voilà. Les profils, il faut faire attention. Et moi, en plus, pour le coup, la personne avec qui je suis, on s'est rencontrés pendant le Covid. Donc, pas de possibilité d'aller se boire un café, etc.
Oui, donc il y a un peu le désir qui monte, tout à fait, le fait de ne pas voir la personne.
Moi, ça me mettait la barrière de me dire on ne peut pas se voir chez toi ni chez moi pour la sécurité. Donc,
évidemment.
Si tu as vraiment envie de me rencontrer, il faut prendre le temps. Un peu de patience, et puis voilà. Puis finalement, tout s'est bien fait. Mais ouais, site de rencontre, faut être quand même très vigilant.
Très vigilant.
Que t'attends pour un homme ou pour une femme, au final.
Eh ben merci Marie, en tout cas, pour cette expérience. Puis bravo à vous, puisque Marie a rencontré l'homme de sa vie sur une appli, et elle est enceinte aujourd'hui. Xavier est avec nous appelle de Revel, en Haute-Garonne. Il est chef d'entreprise. Bonjour Xavier.
Bonjour Estelle.
Xavier, vous fréquentez aussi les sites de rencontres, vous, pas du tout?
Alors, plus depuis 3 mois à peu près, juste avant l'été, où j'ai tout coupé.
Ah ouais?
J'ai été sur Tinder, j'ai été sur Adopt, et autant j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, comment ça tournait, parce que j'y étais pendant 2 ans. Tinder, c'est beaucoup, en fait, à la base, ce que j'ai pu voir, moi, expérimenter pour des plans d'un soir.
C'est ça.
Très régulièrement.
Ils s'en cachent pas, d'ailleurs.
Sur Adopt, c'était un peu différent. Mais alors là, c'est le côté chronophage. Hein. Vous finissiez la journée de boulot, fallait en entamer une autre.
Il fallait faire un...
Ah bah ouais, parce qu'il faut beaucoup discuter, il faut faire un vrai tri, dans le sens où il y a des personnes qui sont... Alors, je ne jette pas la pierre à un sexe ou à un autre. Hein. C'est... Il y a beaucoup de gens qui sont là pour, comme l'avait dit Rémi, pour une relation virtuelle, pour se faire flatter l'ego, pour avoir un lien, même si derrière... Même s'il y a un bon feeling, vous voulez l'expérimenter en vrai, en allant boire un café, un verre de vin, que sais-je. Non, ça se défile souvent. Ensuite, vous avez aussi, malheureusement, les gens que vous rencontrez en vrai, vous dites, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait ça.
De loin et de dos.
C'est ça. Alors, je jette pas la pierre, un garçon-fille, hein, les personnes qui ont mis des photos qui dataient d'il y a 15 ans, qui avaient 15 kilos de moins et autres.
Oh, bah, c'est humain. C'est humain quand même,
mais ça va se voir.
Oui, bien sûr, mais au moins vous attrapez le chaland et après, vous espérez un miracle.
J'aurais mal entendu.
Non, parce que j'ai eu une charmante jeune femme très 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 sympathique qui m'a dit oui, mais on peut pas baser qu'une relation là-dessus. J'ai dit oui, je suis bien d'accord avec toi. Sur une relation, sur le long terme, ça ne peut pas s'arrêter qu'au physique. Mais de base, je dis quand même, l'attirance, faut qu'elle soit là, parce que si c'est pour aller voir à droite à gauche, mais j'ai quelqu'un à la maison, ça n'a pas trop d'intérêt non plus, quoi. Moi j'ai pas trouvé ça très bon. J'ai rencontré des femmes, hein, j'ai eu des relations qui sont allées un peu plus loin, mais ça a jamais été vraiment quelque chose. Je suis plus la rencontre du bar, moi, vous voyez, je préfère
mais
sortir.
Mais je comprends.
Parce que bon, j'ai 46 ans, donc autrefois il n'y avait pas les applis de rencontre quand j'avais la vingtaine.
C'est ça. On sortait.
Et c'est ça. Et je dois dire que quand on n'est pas un gros lourdingue, qu'on a un peu de conversation, 2 doigts d'humour et une touche d'esprit, bon, il y a du savoir-être, il y a du savoir-faire. Et même encore aujourd'hui, malgré ce que les gens peuvent penser, les filles ne sont pas contre se laisser aborder si c'est fait avec,
avec
un comportement qui
adéquat.
Un certain, bien sûr. Voilà, une certaine mesure.
Ben merci beaucoup Xavier en tout cas d'avoir été avec nous et puis ben voilà on vous dit bonne chance voilà pour trouver l'amour en dehors des applis de rencontre mais c'est vrai que là j'ai un collègue des sports qui me dit mais t'as géré le coup et c'est vrai qu'en fait pendant les jeux pour rigoler donc je savais pas ce que t'es que Tinder donc un collègue m'a prêté son Tinder que je vois mais en fait tu ne t'arrêtes jamais quoi
non, mais en fait, c'est-à-dire
qu'il y a des photos en permanence donc mais c'était incroyable et derrière tu te retrouves avec un nombre de messages à gérer mais tu te dis enfin c'est pas possible quoi donc regardez comment ça marchait. Ça m'a fait marrer. Puis bon, je lui ai rendu son compte finalement assez vite. Mais en fait, c'est ça. Tu peux y passer la journée. Puis c'est vrai qu'après, t'as l'impression que tout le monde se ressemble. Quoi. C'est assez chronophage et un peu
déprimant.
Ouais, j'ai pas trouvé ça génial en fait. Hein. Puis même tu lis les extraits de vie des uns ou des autres. Après, tu dis on va aller faire autre chose. du coup, on a plein de messages sur l'appli RMC. Rémi, est-ce que ça marche ou pas les applis?
Alors, il y a des de nombreux témoignages de couples qui se sont formés, voire de couples avec des enfants désormais. Et puis il y a ce témoignage de Pierre qui nous dit « Moi je suis célibataire, j'ai 2 enfants, ça fait 3 ans que je suis seul. Je n'ai jamais utilisé ces applications. Pour moi, le mieux, c'est la vraie vie. Les rencontres dans la rue ou au travail. Je suis artisan commerçant. Je vois beaucoup de monde au cours de la journée, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a correspondu à mes attentes.
Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être y aller, là.
Je ne perds pas espoir. Le vrai... c'est l'humain, le relationnel, la vraie vie.
Je suis d'accord avec lui, mais à un moment, quand tu cherches vraiment, que tu as envie de trouver l'amour et que depuis 3 ans, tu n'y arrives pas, ça peut être une solution. Ouais. Et puis en plus, voilà, ça te permet quand même de, mine de rien, de faire des rencontres épistolaires, d'écrire, de te remettre un petit peu en selle, quoi, tout de même. Non, mais ça a au moins cette vertu-là. Ouais, tu vois, mais, et quelqu'un qui va te dire, t'es beau ou t'es belle.
C'est un mot de temps. Ouais, et en fait, le virtuel, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges.
Mais oui.
T'as l'impression de te vendre et des mensonges, et toi, tu imagines.
Mais tu mens aussi dans la vraie vie.
Ouais, mais enfin, tu t'es rencontré, tu l'as entendu pas. Déjà, la voix, par exemple.
Ah oui,
tu connais pas la voix.
Après, tu téléphones. Notre invitée sur ce débat, c'est Margot Fried Filiosa. Elle est sexothérapeute et auteure de Les 5 langages sexuels aux éditions Robert Laffont. Bonjour, Margot.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Margot, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en 2024, les applis de rencontre sont encore le moyen privilégié de trouver l'amour?
Alors absolument, les applis de rencontre font partie du paysage romantique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les études un peu longitudinales sur les 10 dernières années nous disent que finalement, les couples qui se sont rencontrés sur les applis de rencontre ont tendance à durer plus longtemps et à être plus épanouis. Ça, c'est ce que certaines études nous disent. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent sur les applis de rencontre, alors c'est vrai qu'il y a de tout, mais notamment, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de créer une relation, envie de trouver l'amour. Si aujourd'hui on cherche à trouver l'amour, où est-ce qu'on va? Sur une appli de rencontre. Alors que dans un bar, bah, en fait, il y a un petit peu tout, on ne sait pas. En tout cas, c'est comme ça que les recherches l'expliquent.
Mais quand même aujourd'hui, Margot Fried Filiosa, on voit qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs de ces applis parce que on l'a dit dans l'émission, c'est chronophage, on tombe sur des faux profils, on est souvent déçu et puis encore une fois, il y a pas de certitude à 100%. Et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a des applis qui deviennent payantes, c'est-à-dire que soit vous avez gratuitement 3 profils, soit faut payer pour en avoir 10. Enfin, il y a un moment où payer pour trouver l'amour, enfin ça peut paraître un petit peu embêtant quand même.
C'est sûr. Mais moi, je pense qu'on a besoin, plutôt que de se tourner juste sur les applis, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre société. Il y a une réalité que dans notre société, on s'éloigne de plus en plus de l'intimité, on perd en compétences sociales, relationnelles. On ne sait plus se dire les choses vraiment, réellement, oser partager ses émotions, ses sentiments. On est de plus en plus scotché à nos téléphones et de moins en moins dans l'interaction. Et je pense que c'est en grande partie pour ça, qui fait qu'on a de plus en plus de mal peut-être à se retrouver, de dire bah, finalement c'est trop compliqué. Mais je pense que ça s'applique un peu de manière générale, oui, et pas que aux applis de rencontre.
Alors après, le problème aussi des applis, c'est qu'il y a pléthore de possibilités. C'est ce que tu disais aussi, Fred. C'est comme les buffets en club de vacances, quoi. Et non, mais on faisait le sujet hier et je pensais à ça.
Regardez, moi, je suis pas au buffet, j'aime pas. Donc.
Non, mais le buffet, bah au début, t'as envie de tout prendre et puis dès le 3e jour, il y a trop de choses, quoi. Donc tu te lasses très vite du buffet. Et donc moi, je comprends qu'il y a des gens qui puissent être lassés des applis de rencontre, oui, Fred.
Il y a quelque chose qui est gênant, notamment sur Tinder, c'est que tu vois la photo et ta vie avec ton doigt, ouais, avec ton pouce, tu dis oui ou tu dis non, ouais, comme ça.
Bah, c'est les jeux du cirque.
Bah, moi je trouve
mais
que moralement.
Les applis sont pas comme ça.
Oui, mais je parle Tinder, c'est qui marche le plus. C'est un peu dégueulasse quand même. Je vous trouvez pas que c'est.
Mais la personne ne le sait pas.
Bah oui, mais toi tu le fais.
Mais dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un, en fait, en vrai, elle te fait pouce levé ou pouce baissé.
Oui, mais là, c'est le côté technique, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est avec le doigt, il y a quelque chose d'assez malsain.
Il y a des applis qui font pas ça.
Oui, alors il y a une appli, enfin autour de moi, moi je vous dis, j'ai 38 ans, autour de moi les trentenaires que je connais, t'es gentil Fred. Les trentenaires que je connais, ils sont, j'en connais aucun qui est sur Tinder et ils sont tous sur une appli qui s'appelle Inge sur laquelle il y a 5 ou 6 photos, tu parlais de la voix, les possibilités pour les gens de laisser des vocaux et donc d'entendre la voix de la personne. Donc preuve que ce que je veux dire, c'est que preuve que les applis, elles prennent en compte ce que tu dis très bien et ce qu'on est en train de dire sur ce plateau, c'est-à-dire que swiper, dire oui ou non avec juste une photo, un nom et une demi-phrase de description.
Ouais, et je suis fumeuse et j'ai un chat.
Exactement, il y a un truc qui marche plus très bien et donc il faut aller déjà un peu plus loin pour peut-être trier, je sais pas.
On va terminer avec Greg. Greg qui nous appelle de Cheptainville dans l'Essonne, qui est menuisier. Et Greg, il n'a pas trouvé l'amour sur une appli de rencontre, mais vous avez quand même trouvé l'amour sur une appli finalement, Greg.
Ouais, on peut dire ça. Oui, c'était pas le but recherché à l'origine, mais ouais.
Alors, racontez-nous votre histoire.
Eh ben, je pouvais pas m'y rendre avec mes moyens. Mes deux motos étaient en rade il y a 10 ans. Et
ouais.
Puis, je me suis réinscrit sur BlaBlaCar en tant que passager cette fois-ci pour la première fois.
Ouais.
Et ma femme actuelle s'est inscrite, elle, en tant que conductrice pour la première fois aussi. Et on se rendait à 50 bornes d'écart, parce que moi j'allais à mi-mise-en faire du para, et elle allait sauter au bassin d'Arcachon, on était tous les deux parachutistes, sans savoir,
énorme.
On ne connaissait pas encore.
Incroyable.
Et en fait, quand elle m'a récupéré 10 bornes de là où j'habitais d'ailleurs, on n'était pas si éloigné que ça, et ben, elle a ouvert son coffre, et puis je vois un parachute avec écrit « Parachute de France », je me dis « Tiens, c'est marrant ça ». Et puis finalement, 10 ans plus tard... on a deux enfants, mais jusqu'à présent, on n'était pas
accès.
Je viens de la demander en mariage cet été. Et puis, voilà.
Oh, ouais. Génial.
Mais ce n'est pas les applis, ça, c'est ce qu'on appelle le destin.
Mais
c'est
bien sûr, mais oui, il y a des applis.
C'est des âmes sœurs.
Mais oui, mais qui ont des vertus insoupçonnées. Regarde BlaBlaCar, LinkedIn, c'est pareil. Sur une, voilà, tu peux avoir une rencontre professionnelle.
Pour trouver l'amour, c'est BlaBlaCar.
Mais oui, en voiturage, pour trouver l'amour.
Sur un terrain de para, on se serait croisés.
Peut-être, mais n'empêche que.
On avait les mêmes passions, les mêmes hobbies.
Mais n'empêche que vous êtes rencontrés sur BlaBlaCar, mais c'est quand même une appli. Et voilà, l'amour frappe à votre porte quand vous y attendez le moins.
C'est
et là,
vrai.
Effectivement, Fred, faut que tu te mettes sur BlaBlaCar.
J'ai plus de voiture.
Et bien justement,
en tant que passager.
Tu fais des trajets comme ça. Je vais où vous voulez.
Ouais. T'inquiète, on va gérer ton compte. On va se débrouiller. On va faire un petit compte BlaBlaCar. Merci Greg, en tout cas, pour cette jolie histoire. On avait envie de terminer là-dessus parce que, voilà, effectivement, c'est une très, très belle histoire d'amour. On va terminer avec notre sondage. Rémi, ouais. Est-ce qu'il faut en finir avec les applis de rencontre?
C'est le nom qui l'emporte, mais d'une courte tête. 52% ouais. De ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Bonjour, c'est Charles Magnin.
RMC, Charles Matin.
En cette rentrée, j'ai la recette pour bien attaquer ce mois de septembre. On va être tous ensemble dès 4h30 pour toute l'info en direct, évidemment, toute l'actu sur RMC avec une équipe de choc. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel, ils sont tous là, évidemment, les invités, l'info, les chroniques et vous, plus que jamais, au 32-16, votre réveil avec le sourire et toute l'info. Ça se passe dès 4h30 dans Charles Matin sur RMC.
De jeudi à dimanche, sur le circuit Paul Ricard, c'est le Bol d'Or avec RMC. Le mythe de l'endurance moto est de retour pour une 87e édition. Village moto, show mécanique, exposition moto et un concert du groupe All in Joyce. Info IRESA sur boldor.com. Le Bol d'Or moto de jeudi à dimanche sur le circuit Paul Ricard avec RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC Running. Dimanche 15 septembre, testez-vous sur le 50e semi-marathon Auray-Vannes. Relevez un défi personnel ou encouragez les coureurs sur le parcours breton du golfe du Morbihan. Toutes les infos sur auray-vannes.com. Le 50e semi-marathon Auray-Vannes, dimanche 15 septembre, avec RMC.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC. Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC Conso.
Et aujourd'hui, Charlotte, vous nous parlez des sucreries qui sont vendues aux abords des caisses des supermarchés. Des sucreries qui sont là uniquement pour nous tenter et nous pousser à l'achat compulsif et forcer de constater que ça marche.
Ce midi, j'étais partie pour manger une salade et rien qu'une salade. Donc, je suis allée au supermarché.
Bravo,
du coin,
Charlotte.
Et vous me voyez venir, j'arrive à la caisse et je ne suis pas repartie qu'avec une salade, mais aussi avec ces petites cacahuètes enrobées de chocolat qui me faisaient de l'œil. À la caisse, effectivement, c'est de ça qu'on parle, ces stands. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de craquer à la caisse.
Moi, j'achète des bonbons sans sucre. Il n'y a que ça à la caisse de mon supermarché. Des chewing-gums et des bonbons sans sucre.
Ah bon,
donc ça va, je limite mes risques.
Pourtant, ce n'est pas la majorité. Hein. 86% des supermarchés, selon UFC Que Choisir, présentent ce genre de sucreries en caisse des magasins. Donc, ce sont évidemment des stands qui sont là pour nous pousser à l'achat. Ils comptent sur le fait qu'une fois arrivé en caisse, on craque par impulsion ou alors par tentation des enfants aussi qui réclament évidemment ce genre de sucrerie juste avant qu'on sorte le porte-monnaie.
Oui, évidemment, ce que réclament les enfants, bon, a priori, ce n'est pas des bonbons sans sucre, c'est plutôt des aliments gras, salés, sucrés, quoi.
Aliments dont on connaît les conséquences sur la santé, obésité, diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires. Sachant que bah, plus ces maladies se déclarent tôt, plus elles sont susceptibles d'entraîner des conséquences graves. Or, 4% quand même, 4% des enfants en France sont en situation d'obésité. Et ces aliments, évidemment, attirent particulièrement les enfants. Alors, c'est ce qui pose problème à l'association UFC Que Choisir, qui plaide pour l'interdiction de ces aliments en caisse.
Ah, carrément.
Oui, l'interdiction. En 2008, la ministre de la Santé de l'époque, c'était Roselyne Bachelot, avait demandé aux distributeurs de les supprimer, mais il n'y avait pas de contrainte. Alors, ça avait été fait un petit peu au début, et puis très vite, c'est tombé dans les oubliettes.
Même, hein.
Et oui. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec 86% des magasins qui continuent de mettre en avant ces sucreries en caisse. Et dans la foulée, une autre association qui s'appelle la CLCV a remarqué qu'un tiers des prospectus promotionnels étaient consacrés à la malbouffe. Donc, encore une incitation au mal manger.
Bah après, c'est assez logique parce qu'on est quand même plus attiré par effectivement des noisettes enrobées de chocolat que par des navets et des carottes. Enfin, il y a quand même une logique. Et c'est vrai qu'on peut se demander si ce serait possible d'interdire la pub pour la malbouffe ou encore les sucreries en caisse. Enfin,
ça a été fait.
On va pas interdire.
Ça a été fait ailleurs, ça a été fait au Royaume-Uni depuis 2022. Alors, en tout cas, pour les sucreries en caisse, pour la publicité à la malbouffe, ça a été reporté à 2025. Mais pour les sucreries en caisse, pour les effets que ça a eu,
alors
pour l'instant, ça n'a pas permis de réduire le taux d'obésité. Il faut dire qu'un Anglais sur trois est obèse.
Bah donc, on va garder
les sucreries à la caisse. Il y a d'autres facteurs que les sucreries à la caisse qui sont probablement en cause. Mais tout de même, il a été constaté au bout d'un an que les ventes des produits gras et sucrés en caisse avaient baissé de 5%, tandis que celle des produits plus sains avait augmenté.
Ah, excusez-moi, mais si les aliments gras et sucrés ont disparu des caisses, c'est normal que les ventes aient baissé. Parce que les ventes à la caisse aient baissé, parce qu'il n'y a plus de...
Non, pardon, c'est moi qui me suis trompée. Les ventes globales de sucreries en magasin, et pas que en caisse.
Mais si par exemple, on remplaçait des sucreries en caisse par des fruits et légumes, j'imagine quand même que ce serait un peu moins rentable pour les supermarchés.
Oui, c'est sûr. Alors d'ailleurs, c'est intéressant que vous en parliez parce qu'une étude britannique de 2021 préconisait cela, de remplacer les sucreries par des fruits et légumes, et montrait que ça a marché, que ça a entraîné une hausse des ventes des fruits et légumes globalement dans le magasin parce qu'on était attiré à l'œil par ces fruits et légumes.
Oui, mais alors après, tu les pèses où? Enfin, c'est... Non, mais attends, oh, bah tiens, un navet, il me fait de l'œil.
Ah, bah,
c'est trop compliqué, je vous jure. Mais
bah
si.
Oui. Alors, c'est sûr que forcément, il y aurait moins d'achats d'impulsion, effectivement.
Ah, oh, un navet,
j'ai fait une idée de prendre une pomme.
Oh, j'en ai rêvé hier, c'est incroyable.
Mais bon, il y a une autre raison pour laquelle ces sucreries sont particulièrement mises en avant, c'est que pour les distributeurs, ce sont des produits d'appel. Donc, des produits qu'ils vont vouloir vendre moins cher que leurs voisins, des produits de grandes marques qui sont très appréciés des consommateurs et qui sont vendus partout. Le but, c'est qu'ils soient visibles dès qu'on entre dans les magasins et moins chers qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas prêt, à mon avis, de voir des fruits et légumes en caisse dans les supermarchés, à moins peut-être d'une loi contraignante, mais on n'en est pas là.
Et Leclerc avait fait une expérimentation, hein, je crois.
Oui, en 2008-2009. Et selon eux, ils avaient perdu 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, en 2009.
Ah oui, quand même. Oui, donc, a priori, les supermarchés ne sont pas prêts de mettre des fruits et légumes à la place des sucreries en caisse. Merci beaucoup, Charlotte. On parle de quoi demain?
Alors, demain, puisque tout ça a beaucoup de cohérence, je vais vous reparler de ma salade de ce midi, parce que c'était une salade au poulet et que la Cour des comptes a constaté qu'on mangeait la moitié de nos poulets qu'on mangeait étaient importés.
Ah oui.
Donc on va voir comment savoir si le poulet que je mange est importé ou pas. Est-ce qu'il y a des petites choses à regarder sur les étiquettes?
Alors à mon avis, dans votre salade industrielle du supermarché, je veux dire, il y a fort à parier que votre poulet n'ait pas été français.
Et pourtant, tout portait à croire que oui, vous allez voir ça. Je t'en parle demain.
Eh bien, écoutez, on parle de votre salade demain, Charlotte Méritant. Mais c'est, oui, c'est super. On parlera du t-shirt de Charlotte. Ça, ce sera jeudi.
On parlera... on pourrait parler des pâtes de ma salade aussi, parce que le blé est en augmentation. Il y a une augmentation sur le prix du blé. Donc, ça sera la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Charlotte Méritant. On vous retrouve bien sûr en podcast rmc.fr, l'appli RMC, toutes vos applis de téléchargement.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
RMC 4h30. Excellent réveil à tous, bienvenue sur RMC, il est 4h30 et comme chaque matin nous sommes en direct pour vous informer un tout premier journal en cette matinée avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Elle pleure tout le temps, elle n'est pas bien, les mots de la mère de la fillette violentée par sa maîtresse à Paris. Une enquête préliminaire est ouverte, l'enseignante est suspendue. 5 personnes hospitalisées en réanimation pour avoir consommé un pesto à l'ail des ours, cas de botulisme suspecté. Les autorités cherchent désormais à retracer plus de 600 pots vendus depuis mars en Indre-et-Loire. Et puis comme attendu, échange tendu, extrêmement tendu cette nuit aux États-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump. Seul et unique débat entre les deux prétendants à la Maison-Blanche.
La mère de la fillette frappée par son enseignante sort du silence.
Une enquête préliminaire a été ouverte après la diffusion d'une vidéo filmée par un parent d'élève. Dans cette vidéo, on aperçoit la fillette de 3 ans en crise, frappée dans le dos par sa professeure. Elle tombe de sa chaise. La professeure finit par l'asperger d'un liquide. Les faits se sont déroulés la semaine dernière dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. L'enseignante qui reconnaît les faits a été suspendue. Les parents de la fillette ont porté plainte. Sa mère a témoigné hier sur BFM TV.
J'étais dans le choc, vraiment. Je regarde ma fille comme ça dans l'école. J'ai pas imaginé comme ça, vraiment. Pour la maîtresse, jamais j'ai imaginé ça. Ma fille, elle a parlé avec moi le jour le même. Elle m'a dit, maman, vérifie mon dos, il est rouge. La maîtresse, elle a tapé moi. Moi, j'ai pas pensé. Elle est pas bien, du tout. Elle pleure tout le temps. Elle jette des trucs par terre. Elle veut pas jouer avec ses frères. Même, elle veut pas regarder les gens face à face.
Des images qui ont suscité une forte émotion. La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, parle d'une honte pour notre école.
Ah oui, des images qui ont choqué, ulcéré toute la France hier. Vous les avez vues, ces images. N'hésitez pas ce matin à venir nous dire tout d'abord ce que vous avez ressenti. En les découvrant, le 32-7 est ouvert. Hein. Nicolas vous attend déjà. On va vous lire aussi ce matin sur Direct Studio, sur l'appli RMC. En tant que parent d'élève d'abord, est-ce que ça vous choque? Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que ça vous inquiète aussi? Est-ce que ça vient grignoter la confiance qu'on place dans l'éducation nationale quand on confie tous les jours ses enfants à l'institution? Est-ce que vous faites toujours confiance à l'éducation nationale? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations similaires dans l'école de vos enfants? Il y a aussi la question de la réaction aussi, de la direction de l'établissement. Voilà, toutes ces questions, on va les soulever avec vous ce matin. Vous êtes enseignant aussi, parce que ça vient aussi faire du mal à l'image de votre métier, de votre institution. Ce matin, vous souhaitez témoigner, vous souhaitez réagir. Vous connaissez le chemin sur RMC, ça se passe au 32-16.
5 personnes toujours hospitalisées en réanimation ce matin à Tours. Tous ont pour point commun d'avoir consommé un pesto à l'ail des ours lors d'un repas d'anniversaire. Des analyses sont en cours afin de savoir s'il s'agit d'un cas de botulisme, affection neurologique rare et grave provoquée par une bactérie. Une enquête est ouverte et c'est désormais, Solène Leroux, une véritable course contre la montre qui est engagée afin de retracer le parcours des produits vendus.
Tout commence avec le producteur. Dès hier, la préfecture l'a contrôlé. Les 4 enquêteurs mobilisés ont d'abord identifié le produit concerné. Il s'agit d'un pesto d'ail des ours de la marque aux petits oignons. C'est le lot 04-2025 qui est mis en cause à ce stade. Il contenait 600 bocaux, tous vendus à 4 occasions différentes ces 6 derniers mois en Indre-et-Loire. 30% ont été achetés par carte bancaire. Les consommateurs sont en train d'être contactés. Pour les 70% restants, un rappel du produit a été lancé, mais aussi un communiqué à destination des mairies. Les autorités comptent également sur les professionnels de santé. Chacun d'entre eux, partout en France, a reçu hier matin un appel à la vigilance face à de potentiels nouveaux cas.
Après 2 jours d'absence pour raison médicale, Dominique Pellicot de retour au tribunal. Ce mercredi, principal accusé dans l'affaire Mazan, il est accusé d'avoir drogué sa femme pour qu'elle soit violée par 50 hommes co-accusés dans ce procès hors norme. Hier, l'ambiance s'est tendue, la défense a multiplié les questions, parfois très indélicates pour la victime, Gisèle Pellicot, jusqu'à cette petite phrase qui a Marion Dubreuil mis le feu aux poudres.
Il y a viol et sans intention de le commettre, il n'y a pas viol, a déclaré Maître De Palma à l'enquêteur qui déposait à la barre et qui décrivait toute l'horreur de ce dossier depuis plusieurs heures. La petite phrase de trop pour les parties civiles. Caroline Darian, la fille de la victime, a quitté la salle, son avocat Antoine Camus.
Que la justice soit intrinsèquement porteuse de violence, c'est acquis, on le sait. C'est les droits de la défense. Il y a parfois une forme de gratuité dans la violence infligée. Je ne commenterai pas moi-même ces mots qui ont pu être employés. Je peux vous dire qu'ils sont juste insupportables, y compris pour le conseil que je suis. Mais vous l'avez vu, ils sont également insupportables pour mes clients.
À la sortie, Guillaume de Palma, qui représente 6 accusés qui contestent les faits, assumait ses propos.
Il faut, pour qu'il y ait viol, que la démonstration soit faite de l'intention coupable de l'auteur. Si l'auteur s'est trompé, s'est mépris, il n'y a pas de viol.
L'écrasante majorité des accusés estiment avoir été piégés par Dominique Pellicot et contestent les faits de viol.
RMC, il est 4h35. Pas de remaniement, mais un nouveau gouvernement devant les élus macronistes. Michel Barnier promet du changement tout en assurant sa volonté de respecter les sensibilités du parti présidentiel. Le Premier ministre attendu à Reims aujourd'hui afin de rencontrer les élus du groupe Horizon, parti d'Édouard Philippe. La politique aux États-Unis avec le débat toujours en cours en ce moment entre Donald Trump et Kamala Harris. Unique débat qui a son importance à moins de 2 mois du scrutin présidentiel. Après une poignée de mains plutôt froide, les deux candidats sont entrés dans le vif du sujet sans se faire de cadeaux, s'attaquant sur leur bilan mutuel. L'une comme vice-présidente, l'autre comme ancien président.
Nous avons fait le ménage après Donald Trump et ce que j'ai l'intention de faire, c'est maintenant concrétiser les rêves et les aspirations du peuple américain. Mais pour ce débat ce soir, vous allez entendre toujours les mêmes discours, des mensonges, des plaintes, des insultes.
Elle n'a pas de plan. En fait, elle a fait un copier-coller du plan de Biden. Et ça tient en 4 phrases et 4 phrases seulement où on dit « bon, on va essayer de baisser les impôts ». Mais non, elle n'a même pas de plan. Regardez son plan, il n'y aura rien.
Trump qui refuse de reconnaître sa défaite en 2020 déclare avoir pris une balle dans la tête à cause des attaques de ses adversaires. Harris, de son côté, accuse son concurrent d'être la risée des dirigeants internationaux. Tariq Ramadan, condamné en appel à 3 ans de prison dans un ferme pour viol en Suisse, c'est une première. L'islamologue conteste le jugement et va déposer un recours devant le tribunal fédéral. Ne manquez pas ce matin le témoignage exclusif de Brigitte, victime dans cette affaire. Elle parle sur RMC au micro d'Apolline à 7h40. Notez qu'il y aura bien un procès Pogba, si proche du footballeur dont son frère Mathias seront jugés 2 ans après la séquestration et l'extorsion du champion du monde 2018. Et puis Vincent Labrune, réélu président de la Ligue de foot professionnelle. Une large victoire attendue qui déçoit tout de même une partie des électeurs du foot français. Arthur Perrault.
Oui, avec 14 voix sur 17 possibles, le match n'a pas eu lieu. Malgré une forte contestation publique, Vincent Labrune reste président pour 4 années supplémentaires. Un résultat qui n'est pas du goût du président du Havre, Jean-Michel Roussier.
On est sur une autre planète, là. Si je devais présenter à mon actionnaire et à ses associés le bilan comparable à celui de Vincent, je suis pas certain qu'il me redonnerait un mandat de 4 ans. On est en train de crever la bouche ouverte, des clubs comme le nôtre. Voilà, alors les promesses, c'est du vent, c'est de l'air.
Cyril Linette, principal opposant de Vincent Labrune, ne récolte finalement que 2 voix. L'ancien dirigeant du PMU ne cache pas sa déception.
Je suis très déçu du résultat, parce que c'est une victoire sans appel, il faut le reconnaître. J'espérais gagner, puis je m'attendais à un score beaucoup plus serré. Donc il faut reconnaître que c'est une victoire sans appel de Vincent Labrune, que je félicite pour son succès. Je ne peux pas vraiment dire autre chose.
Un résultat sans appel qui ne suffit pas au président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Il demande à la Ligue de revoir le fonctionnement de sa gouvernance et son modèle économique.
Et du foot sur le terrain, les Bleus s'imposent face à la Bosnie. Victoire 2-0 qui relance la jeune équipe de France dans la course à la qualification à l'Euro Espoir l'an prochain. Le temps, ça ne change pas beaucoup. Temps gris et pluvieux au sud de la Loire. Des pluies parfois soutenues du massif central au Jura. Le soleil sera présent près de la Méditerranée, mais surtout des températures qui dégringolent aujourd'hui avec des températures très fraîches cet après-midi. 13 à Bourges, 15 à Lille, 19 à Lyon. En revanche, il fera plus chaud du côté de Marseille. 26 degrés, 29 à Ajaccio.
Il y en a un qui a 29 aussi, c'est Robert qui nous écrit sur Direct Studio, Thibaut. 29 degrés à La Réunion ce matin. Oui, il se réveille sous 29 degrés.
On y va.
Et plage prévue ce soir dans l'océan Indien pour Robert. Voilà un beau programme. On est très content de vous lire là, dès 4h30 sur Direct Studio. David, salut Charles, salut Thibaut. Voilà, déjà au travail depuis 4h, nous écrit David. Joie à Mario aussi qui souhaite une excellente journée, une excellente matinée à toute l'équipe d'RMC et à tous les auditeurs. La bise du Gard. N'oubliez pas Hakuna Matata. Signe Mario dans son message. Vous aussi, vous êtes levé tôt là. Il est 4h38. N'hésitez pas à réagir. Évidemment, il y a Direct Studio. On lit vos messages. On vous attend aussi au 32-16. Évidemment, sur cette question autour de l'éducation nationale, ces images qui ont révolté, choqué la France entière hier. Cette enseignante qui frappe une enfant, une fillette de 3 ans lors de son entrée en maternelle. Comment vous avez reçu ces images? Quelles émotions vous avez ressenties? Et puis surtout, en tant que parent, est-ce que ça vous inquiète à l'heure de déposer vos enfants à l'école? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations de ce type? En tant qu'enseignant aussi, venez nous raconter comment dire, à quel point ça peut ternir l'image de votre profession. N'hésitez pas à venir témoigner ce matin, ça se passe au 32-16. Nicolas est déjà là, on vous retrouve avec toute l'équipe, avec Géraldine dès 5h évidemment, et puis toute la bande qui va nous rejoindre. Petit à petit, je pense à Amélie Rosic, Manu Le Chypre, Anthony Morel, Alex Biggerstaff, ils sont tous là. On vous attend, on a rendez-vous dès 5h pour le petit-déj avec vous dans Charles Matin. Et puis tout de suite, c'est le meilleur d'Estelle Midi.
Merci Charles, et on vous retrouve juste avant 5h. Ce sera après les meilleurs moments d'Estelle Midi sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Rémi Barré, avec la grève du jour.
Les syndicats d'enseignants appellent à la grève ce mardi contre les réformes éducatives et pour plus de moyens dans les écoles. Et ils dénoncent notamment les évaluations nationales imposées du CP au CM2, jugées contraires à la liberté pédagogique et inutiles face aux véritables difficultés des élèves. Les professeurs des écoles sont invités à boycotter ces tests, jugés donc inutiles et stressants pour les élèves et pour eux-mêmes.
Même si les revendications sont peut-être justes de la part des enseignants. Est-ce que faire grève 8 jours après la rentrée, c'est pas un petit peu tôt, Jérôme Lavrieux ?
Oh non, il faut se remettre de la rentrée quand même. Huit jours, c'est long.
Arrête.
Non, il faut se remettre. Moi, je le comprends. Souffrance au travail, au bout de 8 jours, pour que tout le monde fasse grève. Non, mais il faut arrêter. Du coup, il y a une liberté pédagogique. Non, mais... Les programmes, ils sont nationaux. C'est bien parce que ça permet d'avoir.
Ce que disent les profs, c'est qu'ils connaissent leurs élèves, ils n'ont pas besoin de faire des évaluations pour.
Surtout ceux qui viennent d'arriver. Ben, ils sont là depuis une semaine.
Ben, ouais. Mais parfois, c'est bien. Et si tout se passe bien, il n'y a jamais à craindre une évaluation. Parfois, ce n'est pas juste le problème des élèves. Parfois, il y a des profs qui ne suivent pas le programme, qui ne sont pas à la hauteur. Alors, c'est une toute petite minorité. Mais pourquoi ? C'est aussi important de pouvoir se comparer pour augmenter, améliorer le niveau, de réformer. Apprendre tout au long de la vie, on n'a pas la science infuse pour 40 ans d'enseignement. C'est pas se moquer d'eux, c'est pas être méchant avec eux de faire ça. Il s'agit pas de dire la petite machine, elle est bien meilleure que l'autre truc. C'est la classe, c'est l'école. Et ça permet peut-être aux décisionnaires, les collectivités, de mettre plus d'argent dans cette école-là.
Ouais,
parce qu'il y a plus besoin. Et le CDI devra être amélioré. Les cours de sport devraient être améliorés.
Ils doivent avoir peur qu'on stigmatise aussi leurs écoles et leurs classes. J'imagine que c'est ça. Mais c'est vrai que se mettre en grève 8 jours après la rentrée, ça paraît quand même étonnant, Amélie.
Bah, je vais essayer de me mettre du côté des profs. Parce
oui, bien
que,
sûr.
À mon avis, autour de la table, on ne sera pas nombreux. Et je vais essayer de.
Non, mais j'ai dit, les revendications sont sans doute justes.
D'abord, ils ont prévenu bien en amont, puisque le préavis de grève a été déposé fin août, donc permettant peut-être aux parents de s'organiser en amont. C'était un jour de grève, bon voilà. Ensuite, sur la question précise des évaluations, j'ai pas d'opinion tranchée et je crois que je peux pas en avoir. En revanche, ils devraient être révoltés, et je pense qu'ils le sont, et c'est peut-être ça qui est en fond aussi, de la réforme permanente. On a eu je ne sais pas combien de ministres de l'éducation nationale,
oui, c'est vrai.
Voilà, avec des réformes pas possibles, parce qu'à chaque fois il y en a un qui arrive qui dit, alors non, en fait les évaluations, là, c'est très bien. Il faut faire des évaluations avec des gommettes bleues. 2 ans plus tard, alors non. En fait, les évaluations sur 20, c'est quand même mieux. Alors non, parce qu'en fait, les élèves, les pauvres, pas d'évaluation, c'est mieux pour la pédagogie. En fait, il y a aussi ça, donc une espèce peut-être de ras-le-bol de changer en permanence. Je sais pas. C'est une.
Frère Hermel.
Ouais, franchement, il y a la notion de service public. Les profs, tu sais, en gros, t'as quoi ? T'as 5-6 grèves assurées en période normale, hein. Hors crise, t'as 5 ou 6 grèves dans l'année. Mais ça fait partie du folklore. Ouais,
tous les profs ne vont pas faire grève non plus.
Exactement,
non,
voilà. Ça va être une minorité.
Mais cette minorité-là, elle va bloquer. Elle va empêcher les autres parce que les enfants, ils vont pas pouvoir venir, ou alors ils vont être replacés dans d'autres, dans d'autres classes. Donc,
c'est vrai que c'est des élèves de primaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un enseignant. Ouais, donc, quand ils font grève, c'est une journée de perdu.
Surcharge de travail. Parce que les élèves peuvent distribuer dans d'autres classes. Donc, ce sont les non-grévistes qui payent aussi, comme prof, pour les grévistes. Donc, c'est pas normal, non ?
La lettre du jour.
La lettre du jour, elle est signée du député insoumis Sébastien Delogu, qui a écrit un courrier à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pour lui réclamer son drapeau de la Palestine. Un drapeau qu'il avait brandi le 28 mai dernier en plein hémicycle, en interpellant le camp présidentiel sur la situation dans la bande de Gaza. Ce qui lui avait évalue, parce que c'est interdit, décopé de la sanction la plus lourde de l'Assemblée nationale, une exclusion des travaux de l'Assemblée nationale pendant 15 jours et la privation de la moitié de son indemnité parlementaire durant 2 mois. Donc aujourd'hui, il réclame que son drapeau, qui lui a été confisqué à l'époque, lui soit rendu.
Ouais, là, on est un peu en cours de récré. Madame, est-ce que vous pouvez me rendre mon drapeau, quoi, Jérôme Lavrieux ?
Ah non, mais c'est de la provocation.
Bah, évidemment.
C'est juste de la provoque. Franchement, moi, les bras m'entourent.
À moins que ce drapeau ait une symbolique particulière pour lui.
Il est attaché à un drapeau palestinien qui a sans doute été fabriqué en Chine, je peux le comprendre. C'est sentimental.
Par des Ouïghours.
Oui, sans doute. Donc c'est sentimental, je peux le comprendre. C'est du tergal, tout ça. On est attaché quand même, c'est un produit de luxe. Donc, enfin, c'est ridicule. C'est se foutre du monde. C'est pour faire parler de lui, ben, il a gagné. Voilà, on a un beau champion.
Il fait beaucoup parler de lui, quand même, en ce moment, Sébastien Delogu.
Ouais, mais enfin, il faudrait qu'il fasse parler de lui en tant que député, quand même.
Ouais.
Ce serait bien.
Je ne sais pas si vous avez vu, alors je ne veux pas me moquer, mais à mon avis, je pense que quand on est payé par les Français, si je le dis, parce que moi mes impôts, et j'en paye pas mal, vont à ce monsieur.
Vous avez ils vont pas qu'à ce monsieur.
En partie, ils vont à ce
monsieur. Il vient d'être élu.
En partie, il a lu une lettre lors d'une commission à l'Assemblée.
Oui.
Non. Je suis désolé, mais la manière dont il lit ce monsieur, il n'a pas le niveau pour être député.
Non mais arrêtez, vous ne pouvez pas dire ça, Fred.
Mais vous avez vu le.
Mais vous avez des gens qui ont des difficultés de lecture, ils sont des gens très bien.
Oui, enfin, est-ce qu'il est député, mais chacun a une profession adaptée à ses capacités.
Mais attendez, où est le problème? Je ne comprends pas là.
Non, mais ce monsieur n'a pas de.
Je ne comprends pas, Fred.
Moi, il y a quelque chose dans sa manière de s'exprimer qui ne me va pas.
Non, mais, que ça ne taille pas, c'est une chose. Mais en tout cas, on peut pas critiquer un défaut d'élocution ou une lenteur de lecture.
Je vais le défendre, Fred.
Il n'est pas prêt à ça.
Pour être député, il n'y a pas d'examen.
Exactement.
Sinon, ça s'appelle l'aristocratie.
Fred.
Pourtant, je partage en rien sa manière de faire, sa provocation permanente. Je trouve ça tellement ridicule. Je trouve qu'il se nuit plus à lui qu'à moi.
Et il nuit plus au peuple palestinien, probablement.
Ça n'est pas une profession, c'est un mandat. Il n'y a pas d'examen pour être député.
Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi.
Et c'est les seuls libres, les seuls arbitres, ce sont les électeurs.
Exactement.
Parce que sinon, on revient à l'aristocratie et c'est les fils à papa qui, de génération en génération, se transmettent.
Tu as raison. Tu as raison là-dessus. Alors, simplement, le drapeau de la République française, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge.
Oui, mais.
Voilà, c'est pas le drapeau palestinien.
Non.
Amélie Rosic,
je trouve ça un peu désolant et je trouve ça dommage qu'il attise un peu les braises. On sait très bien. La portée symbolique de ce qu'il demande, et in fine, je crois que ça dessert bien plus le peuple palestinien qui connaît aujourd'hui des souffrances monumentales, et ce depuis à minima 1948, 1979. Donc je trouve ça nul. Non, franchement, je trouve ça...
nul. Ça fait un peu bébête, quoi. Pour le coup, ça discrédite en fait son discours et ce qu'il veut obtenir, en fait. Du coup, rendez-moi mon drapeau, madame. On se dit
mais c'est ce monsieur aussi
possible, quoi.
Qui s'affiche avec des pires islamistes du pays, quand même. Des gens qui appellent à l'intifada en France. Bah, qui s'affiche avec ces gens-là.
Avec Rima.
Mais ça, c'est autre chose.
Ces gens-là, c'est.
Mais ça, c'est un autre débat.
Là,
ce qui est sûr, c'est que en fait, ça fait un peu... Parlez de moi, s'il vous plaît.
Exactement.
Du coup, c'est un peu ridicule.
Le bilan du jour.
Près d'une personne sur deux en France est touchée par le surpoids et 17% sont en situation d'obésité. Ce sont des chiffres en hausse depuis des années. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'ils évoluent différemment d'après les genres. C'est ce que nous dit une étude de Santé publique France publiée aujourd'hui. Si chez les hommes, la proportion de personnes se déclarant en surpoids, y compris en obésité, a augmenté entre 1996 et 2008. On est passé de 40 à 48% des hommes en situation. Eh bien, elle semble aujourd'hui s'être stabilisée autour de 48-50%. En revanche, chez les femmes, si le surpoids déclaré était inférieur à 25% en 1996, à 39% en 2017, il continue d'augmenter au fil des années.
Voilà, et ça, c'est absolument dramatique, hein. Et évidemment, Amélie Rosic, parce que c'est des personnes en surpoids qui seront après, qui auront évidemment des problèmes de santé, mais c'est aussi la sédentarité et c'est aussi les écrans. Et ce qu'il ne faut pas espérer, finalement, que les Jeux Olympiques aient au moins permis aux gens d'avoir envie de faire du sport et de se bouger, même s'il n'y a pas que ça.
Alors, je sais pas, je pense que ça leur a permis d'avoir le sourire pendant quelques semaines, de là à motiver tout le monde à se mettre au sport. Peut-être, alors je sais pas, un exemple, à Paris, pour faire, genre, je sais pas si c'est très sportif, mais si le tir à l'arc, c'est quand même
très sportif. Bah oui, bien sûr, c'est un sport olympique.
Et pour faire du tir à l'arc aujourd'hui, il y a des listes d'attente pas possibles, je le sais parce que j'ai une amie qui s'est passionnée pour le tir à l'arc pendant les JO, qui a voulu s'inscrire et ça fonctionne pas. Je me pose la question de pourquoi cette augmentation, elle est genrée. Alors, je sais pas, Rémi, j'ai pas regardé l'étude, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est genré. Qu'est-ce qui fait que
déjà, ça peut-être la population qui vieillit, et on sait qu'à la ménopause, nous les femmes, et ben on va grossir beaucoup plus.
On part peut-être plus bas.
C'est malheureusement comme le fléau du tabagisme. C'est pendant très longtemps les hommes étaient les gros fumeurs, etc. Et aujourd'hui, les femmes ont rattrapé les hommes dans le domaine. Quoi.
Voilà. Oui, et t'as plus en plus de femmes au-dessus de 50 ans, et on sait que c'est aussi le moment où on grossit en moyenne le plus chez les femmes, donc ça doit jouer malheureusement aussi.
C'est qu'on sait très bien aussi que la malbouffe concerne les franges de la population les plus défavorisées. Exactement. Et c'est toujours le même constat, et c'est assez dramatique parce que du coup, il faut avoir des problèmes de santé, donc il faut se faire soigner. Se faire soigner, ça coûte cher. Enfin, c'est le cercle vicieux, quoi.
Après, la seule bonne nouvelle, c'est que ça semble quand même s'être stabilisé chez les hommes, même si c'est un homme sur deux, c'est dramatique. Oui, mais tu stabilises, et peut-être que derrière, c'est comme quand tu veux perdre du poids. D'abord, tu stabilises, et puis ensuite, tu essaies de.
Alors, avec Amélie, on n'a pas tout à fait le même âge, mais moi, je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, je me souviens que ces chiffres déjà me disaient. Il y avait on disait qu'un Américain sur deux était en situation de surpoids ou d'obésité. Je trouvais ça dingue. Et aujourd'hui, c'est chez nous. Et là-bas, c'est 2 sur 3.
Alors après, le surpoids, il faut voir. Moi, je ne suis pas gros, mais quand je fais les calculs, je suis en surpoids.
Ouais. Ah bah oui, oui, c'est ce que Robert Sebag t'avait dit hier.
Non, mais pourtant, je fais des efforts.
Ce n'est pas des données esthétiques, c'est des données médicales.
Non, mais je veux dire, mais c'est pas entre. Quand tu dis en surpoids, la moitié de la population, ça fait
présenter des risques.
Après, oui, mais enfin, je sais pas, j'ai.
En fait, on va raconter l'histoire. L'année dernière, on parlait d'obésité, de surpoids avec le professeur Sebag et d'IMC. Et donc, Fred était là à côté du professeur Sebag, et Fred a calculé son IMC. Et là.
C'était quasiment à 30.
Voilà, et c'est ça. Et ce qui était, comment on appelait ça d'ailleurs, et c'était pas surpoids, c'était au-dessus du.
Ah non, moi j'étais bien.
Oui, non, mais merci.
Non, j'étais pas.
T'étais un peu au-dessus du surpoids.
Non, j'étais pas encore au cimetière. Hein.
Non. Et donc il a décidé de faire un petit régime derrière, et ça a apporté ses fruits.
Ça a apporté ses fruits. Mais là, mais le problème, c'est qu'avec les bonbons de Charlotte Méritant, là, avec Émilie, on a mangé les treats.
J'ai rien mangé.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. Cette semaine, c'est l'Open Glow Rennes, le tournoi majeur de tennis en Bretagne avec RMC. Au Liberté à Rennes, fêtez les 18 ans de l'événement de la rentrée. Richard Gasquet, Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Pierre Hugerbert, qui remportera l'Open Glow Rennes. Rendez-vous cette semaine. Place des 4 euros sur opendorennes.org avec RMC. RMC Running. Dimanche 15 septembre, testez-vous sur le 50e semi-marathon Auray Vannes. Relevez un défi personnel ou encouragez les coureurs sur le parcours breton du Golfe du Morbihan. Toutes les infos sur auray-vannes.com. Le 50e semi-marathon Auray Vannes, dimanche 15 septembre, avec RMC.
Sur RMC, la nuit, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le Dancourt du jour.
Et nous allons tout de suite revenir sur ce scandale autour de l'abbé Pierre. C'est un coup dur, bien sûr, pour l'image de la Fondation et pour l'Église. Vous savez que l'abbé Pierre est accusé par une vingtaine de femmes d'agression sexuelle. Et aujourd'hui, notre invité, c'est le père Lavertu. Bonjour mon père.
Oui, bonjour Estelle, Sainte Estelle, et bonjour à vos 4 apôtres. Sachez que j'ai refusé TPMP sur Cato TV, rien que pour vous, mes frères.
Désolé mon père, mais TPMP, c'est sur C8.
Ah non, touche pas à mon prêtre, c'est sur Cato TV. Vous regardez jamais, écoutez, c'est de la vraie darka chrétienne, mes enfants.
Alors, mon père, on connaissait les exorcistes au sein de l'Église, mais vous, vous avez une autre fonction.
Oui, je suis sexorciste. C'est comme un exorciste, sauf que moi, je chasse un autre démon, celui du vice, de la perversion, et je peux vous dire que j'ai du boulot.
Ah bah c'est sûr.
Vade, rétro, pervertus, tripotus, Gérard Depardius.
Bon, alors attendez, mon père, expliquez-nous le sexorcisme. Comment ça marche?
Eh bien, écoutez, dès que l'on sent qu'un de nos prêtres, curés ou abbé est un peu trop chaud, on m'appelle et là, j'ai des techniques très très efficaces.
Mais genre comme quoi?
Eh bien, la prière, Estelle, la prière, oui. Et aussi un peu de bombe au poivre dans les yeux pour les calmer. Mais surtout la prière, in nomine durex, sex, herpes, virus, prohibitus.
Mais si ça ne suffit pas?
Alors là, j'ai inventé une technique radicale qui va éradiquer ces problèmes dans l'église, c'est la soutane électrique. Oui, en cas d'érection, dès que ça touche le tissu, le père se prend une décharge de 500 volts. C'est la même technique qu'on utilise pour étourdir les bœufs dans les abattoirs. Je peux vous dire qu'ils vont vite retourner sonner les matines.
Ça semble efficace, mais alors mon père, quel choc quand même avec l'abbé Pierre. Enfin,
Ah oui, vous voyez comme quoi l'abbé ne fait pas le moine. Et contrairement à lui, sa foi était inébranlable.
Enfin, non.
Non, mais vous savez qu'on est quand même au courant depuis longtemps.
Quoi? Mais vous nous avez rien dit.
Eh non, parce que il s'est pas fait attraper. Vous savez, chez nous, on a une devise. Si le curé ne se fait pas griller, on laisse couler. Eh oui, ça fait 2000 ans qu'on a la même politique.
Ouais, enfin, il faudrait peut-être changer de politique, justement. Oui. Et le sexorcisme, alors, est-ce que avec lui, vous avez tenté quelque chose?
Ah oui, on a tout essayé, mais on l'a même forcé à s'occuper des pauvres qui dormaient, qui dormaient à la rue pour le détourner des femmes. Rendez-vous compte, rien n'a marché.
Mais alors, comment vous avez su, mon père?
Bah disons qu'il y a des petites choses qui nous ont mis la puce à l'oreille.
Mais genre quoi?
Déjà, l'abbé demandait très souvent à se faire astiquer sa canne. Et naïvement, nous pensions vraiment qu'il parlait de sa canne. Et puis, il était un peu dur de la feuille, et c'est ce jour où j'ai eu un gros doute.
Mais comment ça?
Eh bien, un jour, il y avait une Bible qui traînait sur une table, et c'est là que j'ai dit « Mais c'est à qui, ce missel ?» Ce à quoi l'abbé me répond « Quoi ? Jackie et Michel ?»
Ah oui, évidemment. Et ce ne sont pas les saints du calendrier, bien sûr.
Non, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de saints, je comprends mieux pourquoi l'abbé avait insisté pour rencontrer Ophélie Winter en 97. C'est parce que Dieu, ce n'est pas parce que Dieu lui avait donné la foi, mais parce qu'il lui avait donné un 95C.
Non, mais alors, que je crois quand même que vous avez été appelé à faire un sexorcisme hors église il y a quelques années, c'est ça?
Oui, terrible. J'en suis encore fatigué. J'avais jamais vu ça. On m'a demandé de s'exorciser un homme politique dont je tairai le nom. Juste les initiales DSK. Il m'a fallu 12 jours de sexorcisme, 18 heures par jour. Ah, le bougre, il voulait pas lâcher. Expiratus, nafissatus. Oh, et puis voilà, aujourd'hui ce monsieur est rangé, ne bouge pas une oreille, il rougit même quand il tire un cul au Scrabble.
Non, mais arrêtez. Alors pour finir, mon père, est-ce que vous avez un message à transmettre à nos auditeurs et téléspectateurs?
Oui, mes enfants, soutenez la fondation Emmaüs.
Ça,
parce que eux, ils n'ont rien fait et ils ont besoin de vous. Je vous laisse. J'ai encore des petits détails, des réglages à faire sur la soutane électrique.
Merci beaucoup, mon père, Pierre-Antoine Damecourt. Le Damecourt du jour, c'est tous les jours, 13h45, dans Estelle Midi. Et puis, bien sûr, en podcast, vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Pierre-Antoine sur l'appli RMC, rmc.fr et toutes vos applis de téléchargement.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. Retour d'Estelle Midi tout à l'heure, en direct à midi sur RMC. Et en attendant, Charles Matin avec vous, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Salut Estelle, oui, on se retrouve tout à l'heure à midi, évidemment, sur RMC. Mais tout de suite, c'est parti, on est en direct avec vous, c'est Charles Matin. Good morning. Good morning.
Good morning. RMC. 5h-6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
Excellent réveil à tous, bienvenue sur RMC en ce mercredi 11 septembre 2024 avec Géraldine Demory. Bonjour Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous.
Sous la pluie, dans le froid, et c'est de ta faute évidemment.
Prévenu, hein.
Oui, c'est vrai. Non, mais, et c'est parti pour durer là, il va falloir
C'est parti
faire.
Pour durer, oui, le froid en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. Hein. Même si on trouvera du soleil pour le week-end, ça c'est plutôt bien, mais on pourrait même avoir des petites gelées, ça y est, ce week-end. Ouais.
Et on est quasi en hiver là.
Bah pratiquement. Oui,
non mais on est nettement en dessous des normales de saison.
On est très nettement en dessous des normales de saison. Ça va s'intensifier encore le froid dans les prochains jours. On va même avoir de la neige sur les Alpes à partir de 1500 mètres demain.
Bah, racontez-nous tiens au 32-16 et sur la
PRMC. Il y a deux doigts de rallumer le chauffage hier.
Ouais, faites-nous remonter tiens les infos. Est-ce qu'il fait froid par chez vous ce matin? N'hésitez pas. On lit tous vos messages sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Vous connaissez la formule le matin sur RMC pour bien se réveiller. Évidemment, toute l'info, toute l'actu en direct. Tiens, ça vient de se passer en direct. Ils viennent de terminer là. Donald Trump et Kamala Harris, leur grand débat cette nuit aux États-Unis. On va tout vous dire dès le journal de 5h. Les grands moments, les moments forts de ce débat.
Seul débat,
unique débat pour l'instant programmé entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Évidemment, vous saurez tout ce matin en écoutant RMC. Ça vient de se terminer. On vous fait tout entendre dans un instant dans le journal de 5h. Et puis l'actu en France, c'est cette vidéo qui a choqué toute la France, ces images particulièrement choquantes, terribles, qui font la une de l'actu, cette petite fille de 3 ans frappée en classe par son institutrice.
Ouais, la vidéo a été postée hier, mais les faits remontent au 5 septembre. Ça s'est passé dans une école maternelle du 15e arrondissement à Paris.
Et on vous attend ce matin au 32-16. Les parents de la fillette ont déposé plainte, une enquête est ouverte, l'enseignante est suspendue. Mais ce matin, en tant que parents d'élèves, dites-nous comment d'abord ce que vous avez ressenti en découvrant ces images. Est-ce que ça vient rompre un peu la confiance qu'on met dans l'éducation nationale quand on confie ses enfants, Géraldine, tes parents comme moi
Ah bah oui, c'est flippant, forcément, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe toute la journée. On laisse nos enfants. Et là, on a une vidéo, mais sinon, on ne sait pas ce qui se passe toute la journée.
Là, il y a cette vidéo qui sort, mais qu'est-ce qui se serait passé sinon, hein, la mère de cette petite fille qui dit je suis allé voir la directrice qui m'a dit ça va, elle l'a frappée, elle ne l'a pas tuée. On minimisait les faits jusqu'à la sortie de cette vidéo. Donc, forcément, tous les parents s'interrogent, qu'est-ce qui se passe dans l'école de mes enfants? Est-ce que ça vient vous mettre un peu de doute? En tout cas, racontez-nous si vous avez déjà été confronté à des situations similaires. Et puis en tant qu'enseignant aussi, parce que forcément ça vient entacher en partie l'image de votre profession ce matin. N'hésitez pas à venir témoigner ce matin, ça se passe au 32-16 évidemment, vous connaissez le chemin, Nicolas est là au standard, vous venez vous installer quand vous voulez dans le studio d'RMC.
Et puis si tous nos rendez-vous dans Charles Matin juste après 6h, Manu Conso, Manu Le Chip qui nous met en garde face au fléau des faux conseillers bancaires. Dans la bande, tiens, à 5h40, Santani Morel nous dira pour qui on vote, il a juste besoin d'une photo et d'un peu d'intelligence artificielle.
Ah oui, juste en...
Une photo, un peu d'IA, et il va savoir pour qui tu votes.
Ah bah super, on va tout vous dire tout à l'heure. Soyez là pour Anthony Morel, ça sera à 5h40 dans la bande. Mais tout de suite, Géraldine, on va regarder donc la météo du jour. Tu nous as dit que ça n'allait pas s'arranger aujourd'hui, il fait encore plus froid.
Et les températures qui baissent encore, 11 degrés là en ce moment à Lille, à Lyon, 15 à Paris, et puis cet après-midi, c'est